Vous connaissez sans doute le nom du prophète Balaam, célèbre à cause de son ânesse. Et si vous n'avez jamais entendu parler de l'ânesse de Balaam, sachez que lui-même l'a entendu parler, cette fameuse ânesse. Oui, un âne qui parle, ça existe. Ou du moins, ça existe dans la Bible. Plus exactement dans le livre des Nombres, au chapitre 22. Je vous raconte l'histoire, elle est inoubliable. Elle se passe dans la vallée du Jourdain, au moment où le peuple d'Israël, après 40 ans d'exode et de traversée du désert, arrive enfin en vue de la terre promise. Ils ont tourné longtemps, les pauvres, dans ce désert du Sinaï que la Bible appelle un désert grand et redoutable, pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif. Ils ont subi toutes sortes d'épreuves et de malheurs, la faim, la peur, les attaques de leurs ennemis. Depuis leur sortie d'Égypte, une génération a passé. Ceux qui avaient traversé la mer Rouge 40 ans plus tôt sont morts, et ce sont leurs enfants qui ont pris le relais. Mais ce peuple immense est debout. Il a gardé l'espérance, il a marché vers le pays promis, et le voilà tout près d'y entrer. Les 12 tribus ont dressé leur campement dans les steppes de Moab, à la hauteur de Jéricho, et ils s'apprêtent maintenant à traverser le Jourdain pour entrer dans cette terre bénie où, dit-on, coule le lait et le miel. Ils sont donc arrivés au bout de leur long voyage, en vue du paradis, du jardin de délices. Moment heureux et solennel. Mais parfois, quand on croit que l'épreuve est terminée, il y en a une autre qui se profile, et c'est à ce moment précis qu'un méchant ennemi d'Israël, le roi Balak, se dit qu'il faut frapper un grand coup. Il n'a pas réussi à vaincre les Hébreux par les armes, il va les écraser par la magie. Pour cela, il envoie chercher en Mésopotamie un spécialiste en malédiction, imprécation et autres mauvais augures, à savoir le prophète Balaam. On dit prophète, mais il n'en est pas un au sens biblique du terme. C'est plutôt un sorcier, un fakir, un devin de la pire espèce, habitué à consulter les esprits, à trafiquer avec des forces occultes. C'est du moins ce que pense Balak, qui se dit « Avec lui, je suis sûr de mon coup ». Du haut de la montagne, il va agiter les mains contre Israël, prononcer quelques formules contre ces intrus, et j'aurai le dessus quand je les combattrai. Les envoyés du roi Balak se rendent donc en Mésopotamie, chargés de demander au prophète Balaam de bien vouloir les suivre jusqu'au Jourdain pour faire son sale boulot de sorcier. Mais Balaam hésite, car la nuit d'avant, il a eu un songe dans lequel Dieu, le vrai Dieu, est venu à lui et lui a dit « Tu ne partiras pas avec eux, tu ne maudiras pas mon peuple, car il est béni. » Donc Balaam refuse. Et les envoyés repartent, tout déconfits. Le roi Balak est furieux. Il envoie de nouveaux ambassadeurs, plus nombreux et plus puissants, pour insister auprès de Balaam, en lui promettant de l'argent, des honneurs, tout le tintouin. Et cette fois-ci, le prophète accepte. Car dans la nuit, il a eu un autre songe, dans lequel Dieu lui a dit « Tu peux partir avec eux, mais attention, je t'ai à l'œil, et tu ne feras que ce que je te dirai. » La situation est donc délicate. Balaam est embauché pour faire quelque chose que, de plus haut, on lui a interdit de faire. Le roi Balak le paye pour maudire Israël, mais le Dieu d'Israël le surveille et ne veut pas du tout qu'il prononce cette malédiction. Que faire? Le prophète décide de partir, mais à ce moment du récit, on ne voit pas clairement si c'est pour obéir à Balak ou à Dieu. Et lui-même ne semble pas le savoir. Bon gré mal gré, après avoir scellé son ânesse, il se met en route vers le Jourdain. On l'imagine, dodelinant de la tête sur le long chemin qui le mène vers la Palestine et se demandant ce qu'il va faire. Obéir? Mais à qui? Toucher l'argent et devenir riche? Ou écouter l'Esprit de Dieu? Et voilà qu'une pensée le traverse. Ce n'est pas dit dans le texte, mais on la devine entre les lignes. La tentation de profiter de cette occasion unique. On le paye grassement, très grassement, pour une petite malédiction. Après tout, qu'est-ce que ça me coûte et surtout qu'est-ce que ça me rapporte? Ça ne me coûte rien, ça me rapporte beaucoup. Et si je faisais ce sale job pour repartir tranquillement avec le pactole? Bon, j'ai eu des songes, mais après tout, ce ne sont que des songes, tandis que l'argent, ça se palpe, c'est du concret. Et toujours dodelinant de la tête, Balaam de se dire « Je ne vais quand même pas passer à côté d'une telle aubaine. C'est la chance de ma vie, devenir riche en prononçant quelques formules magiques. D'ailleurs, je rêve depuis longtemps de me construire une nouvelle maison, d'acheter ceci et cela à ma femme et à mes enfants. Enfin quoi, quand on vous offre des millions, vous seriez bien bête de les refuser. » Le prophète est plongé dans de telles pensées quand tout à coup l'ânesse s'arrête net, puis bifurque et sort du chemin. Furieux, le prophète la frappe à coups de bâton, la forçant à avancer. La scène se répète trois fois, jusqu'à ce que la pauvre bête finisse par se coucher par terre, en lui disant « Que t'ai-je fait? Je suis ta monture depuis tant d'années. » Stupéfait, Balaam lève les yeux et voit alors un ange en travers du chemin, une épée à la main. L'ânesse l'avait vue, elle, et c'est pourquoi elle s'était arrêtée. Et l'ange dit à Balaam, de la part de Dieu, « Tu peux continuer ta route, mais ne t'avise pas de dire autre chose que ce que je te dirai. » La suite, je vous la raconterai. Elle nous fera découvrir une magnifique formule de Balaam sur les jardins, formule qu'Origène commentera de façon tout aussi magnifique. Mais aujourd'hui, retenons cette scène de l'ange et de l'ânesse, qu'il n'est pas très difficile d'interpréter. L'ange, voyez-vous, c'est la volonté de Dieu. C'est l'œil de Dieu qui vous surveille et qui vous garde, surtout quand des tentations et mauvaises pensées vous montent à la tête. C'est la voix de Dieu qui vous parle, parfois en songe et en secret, parfois de façon un peu plus sévère, et qui se dresse parfois devant vous comme un feu rouge pour vous dire de vous arrêter. Quant à l'ânesse, c'est votre conscience qu'il faut écouter, même quand elle a l'air de vous contrarier. En vérité, sachez-le bien, elle est votre meilleure servante. Ne la frappez pas, cette conscience, mais soyez attentif à ses avertissements. Et continuez votre route, mais en respectant les signes, les signaux et les panneaux de signalisation. On imagine d'ailleurs bien l'ange, avec un képi de gendarme, dire à Balaam « Ça ira pour cette fois, mais souviens-toi, Dieu t'a à l'œil. » Et avant de maudire qui que ce soit, écoute la voix intérieure.